14h. L'heure de faire un nouveau point sur l'actualité avec vous, Laurence Gontier.
Bercy a exprimé sa profonde tristesse après l'annonce de la liquidation judiciaire de Brandt. Quelques 700 salariés de ce fleuron industriel français se retrouvent au chômage. Une partie d'entre eux se sont réunis sur les sites de Vendôme et d'Orléans pour exprimer leur colère. Le projet de SCOP qui aurait permis de sauver au moins 370 emplois était soutenu par les pouvoirs publics. Il a été rejeté. 380 000 jeunes sont concernés. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à garantir un avocat à chaque enfant placé en famille d'accueil ou en foyer ou suivi dans sa famille par les services sociaux. Le texte porté par les socialistes était examiné en première lecture. Il devra maintenant être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Si vous allez aux urgences du CHU de Caen, ce sont des praticiens de SOS Médecins qui assurent depuis hier après-midi les consultations en médecine générale. Le service est en effet privé de ses internes depuis le 3 novembre, faute de médecins encadrants. Un troupeau de plus de 200 vaches doit être abattu dans la journée en Ariège, annonce du préfet après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage autour duquel les agriculteurs ont dressé des barrages afin de bloquer l'accès à la ferme. En Autriche, les députés viennent d'adopter à une large majorité l'interdiction du voile à l'école pour les filles de moins de 14 ans. Seuls les députés écologistes ont voté contre, estimant la loi inconstitutionnelle. Des organisations des droits de l'homme et des juristes ont également estimé que cette loi était discriminatoire car uniquement consacrée au voile islamique et risquait d'accentuer les divisions de la société. Décidément, les musées deviennent des cibles. Plus de 600 objets d'une importante valeur culturelle ont été dérobés dans un musée de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les faits remontent au mois de septembre, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. La police indique rechercher 4 suspects et appelle le public à l'aider à les identifier. Elle a pour cela diffusé des images de vidéosurveillance montrant ces individus dans la rue. À la Bourse de Paris, le CAC 40 actuellement dans le vert, plus 0,47%. À 8060 points. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Nous allons sur les traces de Sun Yat-sen.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La personnalité, la pensée et l'action de Sun Yat-sen constituent une clé fondamentale pour la compréhension de la Chine moderne. Cette évidence est universellement acceptée en Chine. Voilà ce que nous dit un grand sinologue, peut-être le plus grand, Simon Less, dans ses fameux essais sur la Chine, paru en 1971. Sun Yat-sen n'était pas communiste et son accession au pouvoir en 1911 a été éphémère et pourtant, il reste célébré aujourd'hui en Chine comme le fondateur de la République chinoise. Alors, il n'était pas communiste, mais il aurait pu. « Je suis un coulis, fils de coulis », disait-il. Un coulis, un paysan, si vous voulez. Et voilà ce qu'il dira à un journaliste du New York Herald. « Je suis né chez les pauvres et je reste pauvre moi-même. J'ai toujours sympathisé avec les luttes du peuple. » Il grandit dans un village proche de Canton, au sud de la Chine, pas loin de Hong Kong. Il va à l'école primaire. À 13 ans, grand changement, il rejoint son frère à Honolulu, sur l'île américaine d'Hawaï. Le frère fait du commerce, Sun Yat-sen s'adapte, il apprend l'anglais, il va au lycée, il est d'une intelligence assez remarquable. Et il découvre à ce moment-là une autre culture, évidemment, et une autre religion. Il est en train, disons-le, de s'occidentaliser. Ce qui va pousser le grand frère à le renvoyer en Chine, du reste. Sa famille, le mari, a une fille d'un village qui est tout près du sien, du leur. Sun Yat-sen a déjà acquis, à cette époque-là, j'allais dire le verre est dans le fruit, on peut peut-être pas dire ça, mais en tout cas, il a tout connu une autre civilisation, il a acquis une liberté d'esprit. Il s'inscrit à l'école de médecine de Hong Kong, qui est donc une colonie britannique, bien entendu. Il décroche son diplôme et en même temps, on le voit qui travaille son chinois, qui étudie l'histoire, qui développe sa culture. Il se forge une opinion sur l'état de la Chine. Il estime que la dynastie au pouvoir, la dynastie Qing, maintient l'immense empire dans l'archaïsme et dans la soumission. Et c'est vrai que cette dynastie, qui donc est en place depuis le milieu du XVIIe siècle, depuis 1644, C'est vrai que l'impératrice Shiji, qu'on appelait autrefois Tsui, moi, quand j'étais petit, cette dynastie est très conservatrice. Shiji ne croit qu'aux traditions. La Chine est en proie à la disette, à la guerre civile, et puis il y a ces Britanniques et ces Français qui ont littéralement mis le grappin sur le pays, et qui ont des territoires entiers pour eux, et qui ont imposé les fameux traités inégaux. Il écrira Sun Yat-sen. Mais de quel pays la Chine est-elle finalement la colonie? Elle est la colonie de chaque pays avec lequel elle a signé un traité. Tous les pays qui ont un traité avec la Chine sont ses maîtres. Aussi, la Chine n'est pas seulement l'esclave d'une nation, mais de toutes les nations. C'est un véritable péril qu'il a mis en évidence, et cette Chine divisée entre toutes sortes de provinces, avec des peuples divers qui ne font pas cause commune, tout ça crée un patchwork impossible à gouverner véritablement. Il aura cette formule, Sun Yat-sen, 400 millions de Chinois unis pour former une Chine ne sont en réalité que sable dispersé. Et lui, il a bien l'intention de changer ça. À 28 ans, il envoie un programme de réforme à un général ministre. Il ne reçoit pas de réponse. Il demande à ce moment-là être reçu par le vice-roi et la porte reste close. Il en tire une conclusion. Puisque le régime ne veut même pas l'entendre, puisqu'il n'est pas question de réforme, eh bien, il faut une révolution. Et au fil des années, il va structurer sa pensée politique et son projet. Il va définir les trois principes du peuple, je le cite, « souveraineté, démocratie et bien-être du peuple ». Dans les faits, ça se traduirait par le renversement de la monarchie, l'instauration d'une république et d'institutions plus démocratiques. Il reprend le principe de l'équilibre des pouvoirs entre exécutif, législatif, judiciaire et l'ajoute administratif. La Chine se débarrasserait des emprises étrangères et l'État devrait aussi assurer au peuple la subsistance avec notamment une grande réforme agraire. Bref, ce qui est en train de naître, Mutatis Mutandis, c'est une social-démocratie chinoise. Et il y a un activiste derrière tout ça. Sun Yat-sen, au cours d'une manifestation, va jusqu'à briser une statue religieuse. Évidemment qu'on le poursuit, la police le recherche, et c'est le moment où il va se réfugier à Hawaï, qu'il connaît déjà bien. Et là, il fonde son premier mouvement révolutionnaire, la Société pour le redressement de la Chine, une des fameuses sociétés secrètes qui parsèment littéralement l'histoire de ce grand empire. Il va l'implanter, cette société secrète, à Hong Kong, et l'année suivante, il estime avoir réuni suffisamment de fonds et d'armes, et de complices, disons-le, pour lancer une insurrection. Il veut faire vaciller la dynastie Qing, sauf qu'il est trahi. On va saisir les armes, 600 revolvers, on va capturer les conspirateurs, l'un d'eux est même tué. Sun Yat-sen parvient à fuir in extremis, le voilà de nouveau à Hawaï. Autant dire que son coup d'État a été un échec, mais il est apparu aux yeux des autorités et des contestataires comme un leader audacieux. La première qualité de Sun, c'est sa persévérance. Il va reprendre son bâton de pèlerin et il va essayer de se faire entendre auprès de la diaspora chinoise à l'étranger, les élites, les Chinois chrétiens, les négociants expatriés, que ce soit au Japon, aux États-Unis, n'importe où. Il cherche encore des soutiens, des fonds, il crée de nouveaux réseaux. Il est très doué pour ça, il sait jouer de son charme, de son éloquence. C'est un homme enjoué, chaleureux, enthousiaste, qui vous reçoit toujours très bien, avec une incroyable force de persuasion. En 1896, il est à Londres, toujours à la recherche de soutien. Seulement, l'ambassade de Chine a ses espions, bien entendu. On a repéré sa présence et un jour, alors qu'il est en train de passer tout près de la légation, des agents chinois s'emparent de lui et le traînent jusque dans l'enceinte de l'ambassade. Ça y est, il est prisonnier. L'ambassadeur veut l'embarquer en secret sur un bateau en direction de la Chine, où il va être exécuté, là c'est certain. Et depuis sa cellule, Sun parvient à faire passer un message au fond d'un seau à charbon. Il fait passer ce message à un ancien prof de médecine de Hong Kong, qui est un de ses amis, qui est anglais, lui, bien sûr. Le professeur se précipite au Foreign Office. Le Foreign Office proteste contre la séquestration arbitraire d'un étranger qui se promenait sur le territoire britannique. Le Times va publier un article. Bref, la Chine n'a plus le choix. Il faut faire machine arrière. L'ambassadeur libère son prisonnier. Et grâce à cet épisode, on peut dire que Sun Yat-sen est devenu une célébrité. Il acquiert même une forme de popularité internationale. À l'étranger comme en Chine, il est désormais la figure d'une opposition acceptable à la dynastie Qing. Paul Daniel, à la tête de l'Orchestre symphonique de Bournemouth, dirigeait le final de la troisième symphonie de Sir Edward Elgar.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1898, c'est la révolte des boxers en Chine, vous savez, boxers parce que les meneurs se font appeler « point de la justice et de la concorde ». Ils mènent une révolte contre les colons occidentaux, révolte populaire, rurale. Et l'impératrice soutient les boxers contre les colons. Les occidentaux vont intervenir militairement, ils vont écraser la révolte et finalement renforcer leur emprise sur une Chine qui décidément n'est plus du tout maîtresse d'elle-même. L'impératrice Shi Ji est complètement discréditée et depuis l'étranger, Sun Yat-sen attaque la monarchie. Il en profite, tout simplement. Il va lancer plusieurs insurrections et elles échouent au Japon. Pour échapper à la surveillance de la police, il coupe sa longue natte chinoise et il se met à s'habiller à l'occidental. Et ça aussi, c'est une façon de dire qu'il rejette tout ce qu'il y a de trop ancestral et d'interminablement traditionnel dans cette Chine dont il ne veut plus. En 1908, la vieille impératrice finit par mourir. Le régent Zai Feng maintient une monarchie à bout de souffle. Je vous ai raconté ici l'histoire du dernier empereur, Puyi. Les thèses républicaines sont en train de se diffuser. Et le 10 octobre 1911, à Wuhan, dans le centre du pays, une ville qu'on connaît malheureusement bien, une insurrection armée éclate à la suite d'un conflit local entre des investisseurs et le gouvernement. Sun Yat-sen, à ce moment-là, n'est pas en Chine, lui. Il est aux États-Unis, dans le Colorado, à Denver, et il apprend la nouvelle dans un journal, ce qui fait qu'immédiatement, il cherche un bateau et il rentre en Chine. Il préfère s'assurer le soutien des puissances occidentales et de la diaspora chinoise. Pendant ce temps, l'insurrection se propage dans toutes les casernes, dans toutes les provinces. Le réseau des sociétés secrètes de Sun Yat-sen n'y est pas pour rien. Et le 25 décembre 1910, le voilà qui arrive, enfin, on a envie de dire, à Shanghai. C'est lui qui a gagné dans cette grande affaire. Ça fait 16 ans qu'il appelait au renversement du régime. Dans les 30 empereurs qui ont fait la Chine, voici ce que dit Bernard Brizet. Le livre est paru il y a quelques années chez Perrin. Bernard Brizet. Son statut international et ses longues années d'activité révolutionnaire font de lui le candidat incontesté pour devenir le chef du nouveau régime. Le 29 décembre 1911, Sun Yat-sen est élu président provisoire. Le 1er janvier 1912, il proclame à Nankin, ville chinoise comme siège du gouvernement, ville choisie comme siège du gouvernement provisoire, la République de Chine. C'est l'apogée de sa carrière. Sun devient ainsi le premier président de la République chinoise, père fondateur de la République de Chine, fondateur de la Chine moderne. C'est l'an 1 de la République et lui-même écrira « J'avais atteint mon but essentiel, celui de toute ma vie, la création de la République chinoise. » La République, pas seulement, également l'unification, parce qu'il proclame aussi la réunion de différents peuples sous la même bannière à cinq couleurs, les Han, les Mandchous, les Tibétains, et ça aura toutes les conséquences qu'on sait, les Mongols, évidemment, et les Hui. En réalité, la Chine reste un empire qui fédère ses peuples avec des tiraillements. On change pas les choses comme ça du jour au lendemain. Et les provinces du Sud prêtent allégeance, mais celles du Nord n'ont pas tellement l'intention. Elles sont fidèles à la dynastie Qing, et notamment le chef militaire des armées du Nord, le général Yuan Shikai, qui va refuser de se rallier. La vérité, c'est qu'il a bien l'intention, lui, de prendre la tête du pays. On a donc une rivalité maintenant entre Sun Yat-sen au sud, qui est un réformateur républicain, si vous voulez, à la tête d'une armée assez faible et dont les finances ne sont pas très puissantes non plus, et au nord, un général autoritaire à la tête d'une armée puissante puisqu'il l'a récupérée. Les puissances occidentales décident d'arbitrer en fonction de leurs intérêts. Elles préfèrent évidemment la stabilité d'un régime autoritaire à l'instabilité d'une jeune démocratie. Elles vont donc appuyer le général Yuan Shikai et Sun Yat-sen va plier. Il va céder le poste de président de la République à Yuan Shikai. En 1912, il fondera un nouveau parti que vous connaissez, c'est le Kuomintang, le parti nationaliste chinois, sur une ligne démocratique et socialiste modérée. Le Kuomintang gagne les élections législatives dans toutes les provinces et aussitôt le général président Yuan Shikai va dissoudre la Chambre des députés, faire assassiner le numéro 2 du Kuomintang et enfermer les militants. Et puis, il instaure ce qu'il faut bien appeler une dictature, et de nouveau pour Sun Yat-sen, c'est l'heure de l'exil au Japon, cette fois il a 47 ans. Il a été déjà président chinois, mais maintenant c'est un opposant en exil. L'un de ses amis et soutiens lui demande de prendre sa fille comme secrétaire particulière. Elle s'appelle Sohn Kingling. Elle a 20 ans, elle est fascinée. Ils ne résistent pas. Ils vont devenir amants et Sun Yat-sen, qui avait déjà une femme et 3 enfants, va divorcer et s'installer avec elle, s'installer avec Kingling. Sun Kingling a toutes les qualités. Elle est riche, jeune et jolie, nous dit Bernard Brisé. Elle a un beau visage, un front élevé, des traits fins et réguliers. Sur les photos, on la découvre pensive mais gracieuse, douce et réservée. Elle sera pendant 10 ans jusqu'à la mort de Sun, sa compagne irréprochable et dévouée, sa proche conseillère. Elle écrit à son frère « Je souhaite me consacrer à Sun dans tous les domaines où il aura besoin de moi. Je suis prête à tous les sacrifices. » Elle s'apprête à entrer dans l'histoire parce que Sun Yat-sen n'a tout de même pas, dans cette affaire, dit son dernier mot. Une chinoiserie, c'est bien ça, extraite du Golden Bird de George Antheil, l'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de John Storgards.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Yuan Shikai était très fort, mais il va subir une attaque cérébrale en 1916. Il n'a pas réussi à unifier la Chine qui est tombée aux mains des seigneurs de la guerre. Vous savez, ces chefs militaires locaux qui sont pleins de rivalités et de prétentions. Sun Yat-sen va en profiter, lui, pour rentrer à Canton. Il constitue un gouvernement dissident du Sud qui va donc s'opposer à tous ces seigneurs de la guerre qui, eux, sont basés à Pékin. Et lui-même revêt l'uniforme de grand maréchal avec épaulettes d'or, képi Saint-Cyrien et plumes blanches. Et à la tête du gouvernement de Canton, il va rétablir les institutions démocratiques, les 3 principes du peuple, souveraineté, république, redistribution. Mais encore une fois, son pouvoir est trop faible, il n'a pas les moyens nécessaires. Il va essuyer 2 coups d'État, se réfugier à Shanghai, revenir, reprendre les rênes. Et il a besoin de soutien malgré son rêve d'une Chine affranchie. Sun Yat-sen, et il va devoir se tourner vers les puissances occidentales, vers l'Angleterre, la France, le Japon, les États-Unis. Or, les pays en question n'ont pas l'intention d'avoir un pouvoir fort à Pékin, loin de là, donc on ne lui répond pas. En 1922, c'est vers la Russie qu'il va se tourner. Russie, on est en 22, donc elle est devenue soviétique, cette Russie-là. C'est Lénine qui est ravi de soutenir Sun Yat-sen contre l'influence coloniale occidentale en Asie, d'où cette première alliance, enfin première républicaine, alliance Chine-Russie, qui va naître contre l'Occident. Sun Yat-sen reçoit de Moscou de l'aide matérielle, technique, humaine, financière. Il se dit que seule une grande campagne militaire depuis le sud vers le nord va permettre de soumettre les seigneurs de la guerre et par la même occasion de balayer les puissances coloniales occidentales, bien sûr. Et pour mieux contrôler l'armée, Sun Yat-sen va fonder une académie militaire et à la tête de cette académie placer son bras droit, Chiang Kai-shek. Il y a aussi un conseiller politique, Zhou Enlai, retenez bien ce nom, c'est lui qui deviendra plus tard un des chefs du Parti communiste, et puis un conseiller militaire soviétique, le camarade Vassili Galen. Pour l'instant, nationalistes et communistes sont donc alliés, vous l'avez bien compris, ce qui suffit pas à permettre à Sun Yat-sen de dominer les seigneurs de la guerre. La guerre civile va faire rage, et d'autant plus que Sun Yat-sen est maintenant malade du foie, qu'il s'affaiblit. À la fin de 24, il fait un déplacement à Pékin pour tenter de négocier la paix. Mais ce n'est pas un succès. Le cancer le rattrape. Il n'a pas le temps de rentrer chez lui à Canton, dans son sud natal, et il va s'éteindre à Pékin à l'âge de 59 ans.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il a laissé un message en guise de testament politique, Sun Yat-sen, que le Kuomintang et les communistes restent alliés. Et son successeur à la tête du Kuomintang, Chiang Kai-shek, ne va pas suivre cette consigne, vous savez bien, puisque lui va revenir vers le nationalisme contre le communisme. Il va se retourner contre les communistes 2 ans plus tard. Sun Yat-sen n'aura pas réussi à créer cette Chine dont il rêvait, cette puissance souveraine, unie, libre. Il est toujours resté fidèle à cette ambition, il l'a portée jusqu'au bout. Pendant 40 ans, j'ai dépensé toutes mes forces à faire la révolution nationale dont le but a été la liberté et l'égalité de la Chine. J'allais dire s'il avait pu voir ce qui se passe un peu plus d'un siècle après. À Nankin, on construira un mausolée, grand mausolée pour sa dépouille, au sommet de la colline pourpre. 400 marches, le grand escalier qui mène à la tombe. Sa jeune épouse, Song Yingling, rejoindra le camp communiste et deviendra la vice-présidente de la République populaire de Chine. C'était, pour Mao, un moyen de montrer qu'il était bien sûr l'héritier du grand Sun.
Vous écoutez Radio Classique.
Thank you. Grâce à vous, la Fondation du patrimoine sauve nos châteaux en péril. Mais aussi nos églises, nos petites chapelles. Sans oublier nos théâtres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle sauve aussi nos lavoirs, nos moulins, pour les générations futures. Alors faites un don sur fondation-patrimoine.org. Fondation du patrimoine, donnons un avenir à notre passé.
Tétinger, 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 Tétinger. Quatre générations, quatre époques, une même mission. Un champagne d'excellence.
Vitalie Tétinger, présidente de la maison Tétinger.
L'esprit Tétinger, c'est un mariage subtil entre le pouvoir de la nature et la créativité de l'homme. De grands vins par la force de la tradition. Chaque bulle raconte une histoire. Une invitation à goûter l'instant.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henrique et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Cette semaine dans Challenge, spéciale école de commerce. Un guide complet pour se repérer dans les filières post-prépa, admission parallèle ou bachelor. Avec les critères de sélection, les frais de scolarité et les salaires des jeunes diplômés. Retrouvez dans Challenge le grand classement des écoles de commerce.
À Noël, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir ? Un parfum ? Classique. Des chaussettes ? Bof. Un cadeau qui décrochera un waouh au pied du sapin ? Ouais, mais quoi ? Et si la réponse se trouvait chez Cultura ? En ce moment, profitez d'un Noël plein d'idées. Leurs conseillers sont là pour vous aider à trouver des cadeaux culturels à prix doux pour toute la famille. Avec Cultura ou sur Cultura.com, plus besoin de chercher des idées. Elles sont toutes là. Cultura, la culture avec un grand A.
Ah. 14h30, 18h, les heures légères, avec Élodie Fondacci. Sur Radio Classique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accompagner jusqu'à la fin de l'après-midi dans ces heures légères. Alors, nous sommes le 11 décembre, le 11 décembre 1964, à New York. S'éteignait à l'âge de 85 ans Alma Mahler, femme de Gustave Mahler évidemment, mais surtout une des femmes les plus fascinantes de son temps. Élevée dans l'effervescence extraordinaire de la Vienne du début du XXe siècle, intelligente, musicienne, cultivée, indépendante d'esprit, Alma n'aima que des génies. Écoutez plutôt, son premier baiser, la jeune fille le donne alors qu'elle est toute jeune, à un ami de son père, Gustav Klimt. Ensuite, elle prend un premier amant, qui n'est autre que le compositeur Zemlinsky, son professeur de composition dans la Vienne de 1900. Zemlinsky, qui est bientôt détrôné par Gustav Mahler en personne, au sommet de sa gloire. C'est le directeur de l'Opéra de Vienne, un chef absolument adulé, plus qu'un compositeur adulé d'ailleurs, parce que Gustav Mahler eut beaucoup de mal à faire accepter ses œuvres. Elle lui donne son cœur, elle lui donne sa main, et à la mort de Mahler, eh bien, elle continue à avoir une vie extraordinaire. Elle entretient une relation amoureuse mouvementée avec Oscar Kokoschka, avant d'épouser ensuite Walter Gropius, qui fut l'architecte fondateur du Bauhaus. Au poker, on parlerait d'un carré d'as. D'ailleurs, les amis d'Alma Mahler la surnommaient, non sans humour, la veuve des quatre arts. En tout cas, Alma fut la muse par excellence et je vous propose aujourd'hui comme thème pour notre émission du jour, les muses dans la musique. Thank you. écoutions Bei dir ist es Traut, un lead d'Alma Mahler, parce que Alma Mahler était aussi compositrice. Dès l'âge de 10 ans, elle a suivi des cours de composition et de piano. Elle compose par prédilection des leaders, elle joue évidemment du piano. Mais au moment où elle épouse Gustav Mahler, eh bien, il lui fait promettre, à travers une lettre restée célèbre, qu'elle va renoncer à la composition. Il n'y a pas de place, lui dit-il, dans notre couple pour deux compositeurs. Évidemment, il faut qu'elle lui cède la place. Il lui écrit que finalement, son métier désormais, c'est de le rendre heureux. Et Alma Mahler va accepter cela et devenir exclusivement muse. Alors à propos de muse, elles sont au programme de notre émission. Et nous allons commencer par la muse de la rhétorique et de l'éloquence. Celle qui inspire les Aèdes, c'est Polymnie. Jean-Philippe Rameau, dans les Boréades, l'a fait entrer de façon fastueuse.
Thank you.
écoutions l'entrée de Polymnie, un extrait des Boréades de Jean-Philippe Rameau avec Théodore Curenzis à la baguette et l'ensemble Musique Eterna. Dans la mythologie grecque, les muses donc sont les 9 filles de Zeus et de Mnémosyne et elles représentent les idées artistiques et intellectuelles. Par exemple, des mots comme musée ou encore musique viennent justement de muses et nous avons décidé de les faire danser en ce début d'émission, les muses. Voici Euterpe qui est la muse de la musique. Elle est souvent représentée avec une flûte à la main. Et Giulio Caccini lui a fait cette musique que nous chante Magdalena Kojena. Nous écoutions cet air de Giulio Caccini, Euterpe et Dolce Canto, qui était chanté par Magdalena Kojena, accompagnée par Pierre Pizzi à la tête de Private Music. Alors un message de Rémi sur radioclassique.fr, puisque nous en sommes aux danses, aux muses antiques, nous écrivez-vous Rémi, pouvons-nous accueillir Terpsichore, la muse de la danse? Stravinsky l'a fait danser dans Apollon Musagète.
Thank you.
deux, entre Apollon et Terpsichore, puisque les muses forment le cortège d'Apollon, comme vous le savez. Un extrait d'Apollon Musagète d'Igor Stravinsky, ballet dans lequel Apollon distribue justement leurs talents aux muses. Esa-Pekka Salonen dirigeait l'orchestre de chambre de Stockholm. J'ai pensé à Erato, qui est une autre muse, et je me suis aperçue que Erato, c'était un label aussi, donc pour honorer cette déesse-là, je vous propose d'écouter les barricades mystérieuses de François Couperin par David Frey.